Vous savez, c'est toujours agréable. Agréable d'abord d'échanger avec mon prochain invité. Et aussi, c'est toujours agréable, on dit en anglais « reminisce », de parler du bon vieux temps. Et là, je vais faire plaisir à des gars comme... des gars comme Jean-Pierre Roy, tu sais, dans le style, là. Des gars du temps de Jean-Pierre Roy. Et je vais parler de baseball. Baseball qui, comme vous le savez, est un sport que j'apprécie grandement. On échangera donc avec mon invité, Derek Aucoin. Salut.
Salut, Ron.
Puis, sais-tu quoi, Derek, avant que l'on parle des Red Sox et les Dodgers, je sais que tu vas certainement me dire que c'était pas nécessairement ce que tu anticipais. En tout cas, tu vas pouvoir... Parce que toi, tu me parlais beaucoup de Milwaukee, hein, pas vrai? Tu me parlais beaucoup de...
Ouais,
OK. Bon, ben, ouais. Avant, Ronald et toi, on va parler de choses que Ronald a vécues à l'âge de Dawson, ton fils.
Oui.
OK? À l'âge de Dawson, ton fils, là, mon père, moi, m'amenait au stade de Lormier.
Wow.
Au coin de la rue Ontario puis de l'avenue de Lormier. Ça, c'était dans le quartier sud, centre-sud de Montréal. Et là, ben, il y avait ce qu'on appelait les Royaux de Montréal. Et dans cette équipe des Royaux de Montréal, ben, on s'en souvient, il y a eu un dénommé Jackie Robinson. Puis Jackie Robinson, lui, pour ceux qui se posent la question à savoir qui était Jackie Robinson, d'abord, Jackie Robinson était, lorsqu'on parlait de ségrégation raciale, là, dans le baseball, le majeur, mais il a été un des grands responsables, sinon le plus grand responsable, qui a fait réaliser à la planète entière que les Noirs pouvaient être d'abord, devaient être traités comme les Blancs et pouvaient être aussi efficaces lorsqu'on parle de frapper la balle et capter la balle et pouvaient être de grandes étoiles et pouvaient certainement, lorsqu'on parle de tension raciale, calmer le monde un peu parce que lui, ce qu'il a fait, ce qu'a réussi Jackie Robinson dans cette organisation-là, c'était phénoménal. Et en 1946, avec les Royaux, ben, il s'est présenté ici, puis ici, on l'a accueilli, les bras ouverts et tout ça. Mais il y a eu, dans les années où moi particulièrement, je suis allé au stade de Lormier, il y a eu des joueurs tout à fait phénoménal. Des joueurs qui m'ont marqué. Et je vais parler certainement de Tommy Lasorda.
Oui.
Sparky Anderson. Était là. Il y avait Roy Campanella, il était là, mais avant moi, ça. Mais il y avait Don Drysdale qui nous fait son tour.
Don.
Mais celui qui veut pas, il nous fait un tour ici, puis je me souviens pas de l'avoir vu, parce que c'était un peu, j'étais trop jeune, j'avais 5-6 pouces à peu près. C'est mon joueur. Roberto Clemente.
Mm-hmm.
Ça, qui a été mon joueur. Moi, là, lorsque je jouais à balle, moi, plus tard, Roberto Clemente. Tous ces joueurs-là, et plus encore, ont joué, mon cher Derek, au stade de Lormier, la filiale
des
Dodgers dans le temps.
Ouais.
Parce qu'on sait que les Dodgers, eux autres, ils n'ont pas toujours été à Los Angeles. Avant, ils étaient à Brooklyn.
Ouais.
Mais on a... Nos origines, nous autres, de gens de baseball ici à Montréal, mais ça date des années... Écoute, les Royaux, là, la première édition, je vais l'appeler ainsi, des Royaux, là, c'est de 1897 à 1917. Puis après, dans mon temps à moi, ben, je veux dire, dans la fin, c'est de 28 à 60. Les Royaux sont ici depuis 1897 comme tels. Ils étaient dans la Ligue... Ils ont changé de ligue, la Ligue internationale, tout ça. Là, mais... Alors, on a des origines, on n'a pas juste les Expos, on a les Royaux. Et c'est pour ça que, particulièrement cette année, Ronald est touché de savoir que les Dodgers affrontent les Red Sox. Parle-moi de cette série, mon ami Derek Aucoin.
Écoute, ces deux équipes-là, je pense qu'il y a beaucoup de gens au Québec, beaucoup de gens à Montréal qui ont de bonnes raisons d'être tiré d'un bord ou l'autre. Il y en a, l'amateur de baseball va être content parce que c'est quand même deux super puissants. C'est quand même deux très bons clubs. Il y en a un qui a remporté 108 matchs. Les Red Sox, eux autres, ont eu une saison absolument incroyable. Les Red Sox avaient déjà garanti le premier rang de l'Est de l'Américaine. Ça fait plus d'un mois et quelques. Alors, eux autres, c'est des champions. Eux autres arrivent, ils n'ont pas perdu trop souvent cette année.
Ouais.
Puis les Dodgers, eux autres, au début septembre, Ron, ils étaient troisième dans l'Ouest national. Mm. Eux autres, ils ont fallu qu'ils se battent. Elle a repris une 163e game cette année pour remporter l'Ouest. Ils ont connu un début de saison, un milieu de saison ordinaire. Fait qu'eux autres se sont battus, ils ont tout fait pour essayer de se classer en série puis de remporter la division. Fait que t'as deux équipes de deux parcours un petit peu différents, mais les Red Sox, pour les gens qui aimaient le baseball, quand le baseball a quitté Montréal, les Red Sox, c'est proche. Les Red Sox, depuis les 15 dernières années, se sont rendus en série. Ils ont remporté 4 séries mondiales. C'est la quatrième en 15 saisons. Fait que c'est une équipe que les gens peuvent s'identifier, s'associer. Pedro s'est retrouvé là, Pedro Martinez. Puis les Dodgers, pour toutes les raisons que tu as nommées, toute l'histoire, l'ADN du baseball à Montréal.
Ouais.
Moi, là, des photos de Jackie Robinson avec son chandail, là, Montréal. Là, moi, j'ai ça dans la tête. Je n'étais pas là. Moi, je n'étais pas né encore. Sauf que je le sais que Montréal fait partie une tellement importante du baseball majeur, de toutes les bonnes choses qu'on voit aujourd'hui. Montréal, il a joué son rôle. T'as parlé de Tommy Lasorda. Tu sais, Tommy Lasorda, c'est le dernier gérant, lui, qui a remporté la Série mondiale avec les Dodgers. Ça fait 30 ans de ça. Mm. C'est en 1988. Ça fait 30 ans de ça. Tommy, il n'est pas aussi fort qu'il était quand toi, tu l'as connu, puis quand il était gérant en 88, mais... c'est quand même quelque chose. Fait que il y en a pour tout le monde dans cette série mondiale-là, Ron.
Oui, absolument. C'est bien dit. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu es en accord avec le fait que la Ligue qui remporte le match des étoiles reçoit en série mondiale? Moi, là...
Ben, j'haïssais pas ça avant, mais ils font plus ça, Ron. Tu sais que cette année, ça existe plus, ça.
OK. C'est-tu depuis cette année que ça existe plus?
Oui, c'est la première année.
Ah, OK. C'est même si Roberts a perdu le match, tout ça, avec les Dodgers. Ça n'a rien à voir, là. C'est une question.
Non, c'est la meilleure fiche.
Comment ça se fait que c'est comme ça cette année? Merci de d'éclairer mes lanternes. Comment ça se fait que c'est la première année? Et comment se fait-il qu'ils ont décidé que c'était la fiche? Explique-donc,
Ron. Écoute, ils ont décidé de mettre de l'argent à cette heure. Parce que le problème au match des étoiles, là, c'est qu'il n'y avait pas vraiment un enjeu. Fait qu'ils ont décidé, lorsqu'il y a eu le fameux match qui s'est terminé nul, là, il y a une quinzaine d'années, là, ils ont dit, OK, plus jamais, il va falloir qu'on mette un enjeu. Puis ils ont décidé de mettre l'enjeu de la Ligue qui gagnait recevait la série mondiale.
Mais
là, ça a duré pendant un long bout.
Ben ouais.
Mais là, à un moment donné... T'as des gars, des gérants qui décidaient de quelque chose qui était pour arriver plusieurs mois, puis t'as même pas pour être impliqué.
Ben oui, c'est
alors,
vrai
là,
aussi.
Ils ont décidé de mettre une bourse. Ils ont décidé de mettre une bourse.
Ouais.
Je pense que cette année, il y avait une bourse aux gagnants. Fait qu'il y a un enjeu, mais ils ont enlevé cette responsabilité.
Ils ont bien fait.
Je suis d'accord.
Ils ont bien fait. OK. Bon. Moi, j'opte, évidemment, écoute, c'est sûr, le underdog. Le underdog, c'est l'équipe qui s'est faufilée en 7, puis tout ça, puis c'est pas évident. Donc, c'est les Dodgers. Les Dodgers. Les odds, si on regarde à Vegas, les cotes et tout ça, j'imagine que ça favorise considérablement les Red Sox. Je pourrais te donner les détails là-dessus un peu plus tard, mais j'imagine que l'équipe favorite, c'est Boston.
C'est plus serré que tu penses.
OK, d'accord, j'écoute.
C'est plus serré que tu penses. Et moi, j'ai bien aimé, quand tu parles d'underdog, c'est quand même les Dodgers de Los Angeles.
Ouais.
Le propriétaire des Dodgers était bien drôle aujourd'hui. Il disait que c'est pas facile d'aller contre une super puissance comme les Red Sox. T'sais, une équipe de gros marché qui a dépensé beaucoup cette année parce que les Red Sox, c'est les meneurs en termes de la masse salariale. 228 millions à la fin de la saison. Qui ont dépensé. Les Dodgers sont au troisième rang. Fait que, tu sais, ils riaient un peu. C'est quand même deux des équipes qui ont dépensé le plus. Mais quand je regarde position par position, j'analyse ça. Les Red Sox ont su gagner toute l'année. Ils ont trouvé des façons différentes de gagner. Ils ont des joueurs incroyables. Les Dodgers, eux autres, ça leur a pris un petit peu plus de temps à vraiment tout mettre en marche. Mais quand j'analyse les deux équipes, t'as bien raison quand t'as dit que c'était peut-être pas le scénario que j'avais vu, parce qu'elle m'a dit, moi je pensais que c'était peut-être Houston contre Milwaukee. Ah, oui. Je vais te dire, assez dans le champ, dans les bleachers. Mais là, moi, la façon que je regarde ça, j'étais un peu comme toi. Je pense que ça va être une longue série. Je pense que les Dodgers sont peut-être mieux équipés pour durer dans cette longue série-là. Il y a beaucoup de points d'interrogation des deux côtés, mais moi, les Dodgers en 6 ou en 7, c'est le même que je vois.
Est-ce que, Derek, ou quoi, est-ce qu'ils ont plus de profondeur?
Ça dépend de la position. Ça dépend
offensivement?
Oui, plus de profondeur. Ben, c'est deux équipes très profondes, mais ils ont plus de profondeur des deux côtés de la plate, hein, parce qu'ils ont des gars, du côté des Dodgers, si un lanceur droitier est dans le match, ben, tu sais, ils vont frapper Bellinger, ils vont frapper Muncy. Puis si c'est le contraire, tu sais, si on un gaucher, ben là, il y a Kemp qui est là, puis tu sais, il y a quand même des joueurs étoiles qui sont sur le banc des deux côtés, peu importe qui lance. C'est intéressant de voir ce qu'ils vont faire du côté des Red Sox avec Mookie Betts, parce que Mookie Betts, tu sais, c'est probablement le meilleur joueur du baseball en ce moment. Lui, c'est un joueur de champ droit. Et là, ben, quand on va jouer les trois matchs à Los Angeles, on n'a pas le frappeur désigné. J.D. Martinez, c'est un frappeur désigné. Lui, c'est un voltigeur. Fait que lui, s'il va se rendre dans le champ, Mookie Betts va se retrouver au deuxième but. Puis ça, il a joué peut-être une coupe de manche là cette année, mais il jouait dans les mineurs, il jouait au deuxième but. Fait que, tu sais, il y a des impôts derrière.
Le baseball, Derek, le baseball, là, et je fais une affirmation, OK? Le baseball a tellement changé aujourd'hui que, je vais dire, comment je peux bien dire ça? Ce n'est plus le baseball que Ronald appréciait, que Ronald a connu. Le baseball, là, c'était des hit and run, c'était des vols de but, c'était une stratégie, c'était des squeeze play, c'était... Aujourd'hui, on ne veut pas enlever le bâton des mains des frappeurs, pour la plupart des frappeurs. On limite les jeux, on limite... Il y a pas... Avant aussi, tu parles d'un gars qui joue au deuxième, avant, là, la position de deuxième arrêt court, là, c'était primordial, on revirait des doubles jeux, c'était important, les combinaisons de tout ça. Les troisièmes buts, c'était des gars qui étaient placés là, beaucoup à cause de leur défensive. Dans certains cas, aujourd'hui, c'est des positions où, tu sais, premier but... Moi, je pense que le baseball a énormément changé au niveau stratégie. Est-ce que j'exagère ou bien...
Non. Non, t'exagères pas. Il y a les défensives exagérées, défensives spéciales, l'utilisation du data, comment tu t'affrontes des frappeurs, comment tu décides de même faire ton alignement, qui va lancer. T'as raison. Sauf que le baseball que Ronald a adoré puis a aimé, il va en avoir beaucoup dans cette série-là, parce que les deux gérants ici, là, c'est deux méchants bons gars, là, mais c'est deux gars brillants qui sont des maîtres de mélanger le baseball que Ronald a grandi avec puis qu'il a adoré et le baseball d'aujourd'hui. C'est des experts à marier les deux. Leurs joueurs sont prêts. Leurs joueurs jouent de la bonne façon. Ouais. Ils font avancer les coureurs quand c'est le temps. Ils sont capables de raccourcir le bâton avec deux prises, mettre la balle en jeu. Ils sont capables de tourner le double jeu. Mais en même temps, s'il faut qu'ils exagèrent une défensive, parce que Cody Bellinger, on va l'attaquer avec les balles au coin intérieur, puis il va tirer. On va mettre plus de gars du côté droit de l'avant-champ. Ils vont le faire aussi.
Mais c'est un
beau mélange des deux.
Et ton releveur numéro un en sixième manche, on peut vivre ça?
Ben oui, on peut.
On l'a vécu avec Milwaukee,
Écoute, tu sais, des fois, c'est parce que t'as pas confiance en les autres qui sont là. Des fois, c'est ça. Là, les Red Sox ont utilisé quasiment tous les partants en relève dans les dernières séries. Fait que, tu sais, Chris Sale a lancé en relève, Porcello a lancé en relève. Et ça, c'est juste parce que le pont pour se rendre à Kimbrel, il brasse un peu. Ils sont pas nécessairement confiants, mais encore là, tu dois t'ajuster. Ouais. Tu sais, c'est fini le jour où ton closer, il est là juste pour la 9e manche.
OK, t'sais, dis-moi.
Des fois, là, ouais. Tu dois fermer le match en 5e manche, Ron.
OK, OK.
Tu l'amènes en 5e manche.
Ouais. Dis-moi, parle-moi de David Price, qui, lui, avait connu des insuccès, aucune victoire en 9 contre les Astros. Ben, écoute, il a quand même lancé de façon presque impeccable. Penses-tu que ça peut être un élément essentiel, important, qui peut jouer un rôle, justement, un rôle primordial?
Absolument. Ouais. Écoute, je pense que cette première victoire-là, quel poids ça doit y avoir
sur les épaules.
C'est un gars que les Red Sox ont dépensé beaucoup d'argent pour investir, pour aller chercher David Price. Il a quand même bien performé cette saison. Mais là, tu arrives en série, quand ça compte à un autre niveau.
Ouais.
Et puis, malheureusement pour lui, il était juste pas capable d'offrir la grosse performance. Et là, cette victoire-là, premièrement, le timing est excellent, parce que là, c'est avant la série mondiale. Il va avoir la balle le deuxième match, puis let's go, il y a cette confiance-là, puis au moins, il a enlevé ce poids-là sur ses épaules.
Ton joueur par excellence, évidemment, moi, il va provenir des Dodgers, mais toi, ton joueur par excellence, d'abord, est-ce que tu m'as dit que tu prenais pour les Red Sox?
Non, moi, j'ai dit que les Dodgers, c'était pour gagner.
Ah, OK, je voulais juste... Oui. Parce que j'aurais aimé que tu prennes pour les Red Sox, moi, les Dodgers, mais... OK, on peut pas... Personne peut prendre... On peut pas prendre pour Mookie Betts, on peut pas. Alors, le joueur par excellence... moi, si je prends Machado, tu vas prendre qui, toi?
Kershaw.
OK. Clayton Kershaw, tu vas le voir deux fois dans la série, quoi?
Ah, peut-être plus. Non, mais je pense que ça risque d'être long. Tu vas le voir deux fois et demi au moins.
Puis, un bon gaucher.
Puis lui, ça en a un autre que les séries. Il y a cette piqûre-là qu'il n'y a pas eu toujours les grandes performances en série. Puis là, il vient d'avoir un bon match. Fait que lui aussi, il va lancer la première fois de sa carrière au Fenway Park. Il est fébrile. Puis la température va jouer pour beaucoup, hein, parce qu'il lance beaucoup plus de courbes dans ces séries-là, puis quand il fait froid, c'est un petit peu plus difficile d'avoir une bonne poignée sur la balle. J'ai hâte de voir ça demain. Moi, j'ai bien hâte, là, ce soir, je me promène dans la maison, je sais pas quoi faire, parce qu'il n'y a pas de...
Non, je comprends, c'est la plus belle période de l'année. Écoute, ça a été agréable d'échanger avec toi, Derek. J'imagine que lorsque tu vas être derrière le micro de Bonsoir les sportifs ou le week-end ou quoi que ce soit, tu vas en donner pour notre argent, là, dans tes interventions et tout ça, là, parce que vraiment, tu t'attends à une série, comment tu m'as dit, une série en 6, hein, les Dodgers en 6, c'est ça?
Ben, ça peut être 6, ça peut être 7.
Ouais,
moi,
j'opte pour 7, là, mais parfait. Fait qu'on prend pour la même équipe, pourquoi pas? On est d'abord sur la même équipe aussi, ici, ouais. 98.5. Fait que,
mais il y a tellement de points d'interrogation, il peut y avoir des surprises. Il y a un joueur à surveiller, un lanceur des Red Sox peut faire une grosse différence.
Ouais.
Nathan Eovaldi. Eovaldi, rappelle-toi
d'Eovaldi,
là. Oui. Si les Red Sox se sauvent avec, là, il y a des bonnes chances que lui fasse partie d'un point tournant là, de ça.
Parfait. Et j'imagine que... C'est demain soir à quelle heure, là, le match? Le match débute à quelle heure?
À 8h. À 8h09.
OK, 8h09. Puis j'imagine que, de part et d'autre, on va nous présenter, durant ces rencontres, les vieux de la vieille. Koufax, Drysdale... David Ortiz.
À Los Angeles, c'est sûr. À Boston, c'est sûr que Papi va être là.
Papi va être là. Écoute, ça va être beau. Ça va être beau des... Hey, Pedro, peut-être?
C'est sûr. C'est certain que Pedro va être là aussi.
C'est bizarre. J'aurais pensé que toi, mon grand bel ami Derek, j'aurais pensé que tu aurais été faire un tour à Boston pour au moins un de ces matchs-là.
Boston, moi, j'enseigne le baseball à l'école à Dawson, Ron, et les mardis, mercredi, jeudi, fait que je voulais pas manquer ça. Et je regardais pour vendredi, samedi, dimanche, aller à Los Angeles avec Isabelle.
Ah.
Et là, je travaille samedi, là. Fait que là, je suis en train de regarder ça, mais j'aimerais aller pogner au moins une ou deux games à Los Angeles.
On te le souhaite, Derek, on t'embrasse fort. Merci, t'es bien fin.
Salut, Ron, merci, bye.
Bye, 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 bye.